Chapitre 3 Un jour sans lendemain. Les derniers événements de cette histoire ayant dépendu de la disposition des lieux où ils se passèrent, il est indispensable d'en donner une minutieuse description sans laquelle le dénouement serait d'une compréhension difficile. La ville de Fougères est assise en partie sur un rocher de schiste que l'on dirait tombé en avant des montagnes qui ferment au couchant la grande vallée du Couesnon et prennent différents noms suivant les localités. À cette exposition, la ville est séparée de ces montagnes par une gorge au fond de laquelle coule une petite rivière appelée le Nançon. La portion du rocher qui regarde l'est a pour point de vue le paysage dont on jouit au sommet de la pèlerine et celle qui regarde l'ouest a pour toute vue la tortueuse vallée de Nançon. Mais il existe un endroit d'où l'on peut embrasser à la fois un segment du cercle formé par la grande vallée et les jolis détours de la petite qui viennent s'y fondre. Ce lieu, choisi par les habitants pour leur promenade et où allait se rendre Mademoiselle de Verneuil, fut précisément le théâtre où devait se dénouer le drame commencé à la vivetière. Ainsi, quelque pittoresques que soient les autres parties de Fougères, l'attention doit être exclusivement portée sur les accidents du pays que l'on découvre en haut de la promenade. Pour donner une idée de l'aspect que présente le rocher de Fougères vu de ce côté, on peut le comparer à l'une de ces immenses tours en dehors desquelles les architectes sarrasins ont fait tourner d'étage en étage de larges balcons joints entre eux par des escaliers en spirale. En effet, cette roche est terminée par une église gothique dont les petites flèches, le clocher, les arcs-boutants en rendent presque parfaite sa forme en pain de sucre. Devant la porte de cette église, dédiée à Saint Léonard, se trouve une petite place irrégulière dont les terres sont soutenues par un fossé exhaussé en forme de balustrade et qui communique par une rampe à la promenade. Semblable à une seconde corniche, cette esplanade se développe circulairement autour du rocher à quelques toises en dessous de la place Saint-Léonard et offre un large terrain planté d'arbres qui vient aboutir aux fortifications de la ville. Puis, à 10 toises des murailles et des roches qui supportent cette terrasse due à une heureuse disposition des schistes et à une patiente industrie, il existe un chemin tournant nommé l'escalier de la Reine, pratiqué dans le roc et qui conduit à un pont bâti sur le Nançon par Anne de Bretagne. Enfin, sous ce chemin, qui figure une troisième corniche, des jardins descendent de terrasse en terrasse jusqu'à la rivière et ressemblent à des gradins chargés de fleurs. Parallèlement à la promenade, de hautes roches, qui prennent le nom du faubourg de la ville où elles s'élèvent et qu'on appelle les montagnes de Saint-Sulpice, s'étendent le long de la rivière et s'abaissent en pente douce dans la grande vallée où elles décrivent un brusque contour vers le nord. Ces roches, droites, incultes et sombres, semblent toucher au schiste de la promenade. En quelques endroits, elles en sont à une portée de fusil et garantissent contre les vents du nord une étroite vallée profonde de 100 toises où le Nançon se partage en trois bras qui arrosent une prairie chargée de fabriques et délicieusement plantée. Vers le sud, à l'endroit où finit la ville proprement dite et où commence le faubourg Saint-Léonard, le rocher de Fougères fait un pli, s'adoucit, diminue de hauteur et tourne dans la grande vallée en suivant la rivière qu'il serre ainsi contre les montagnes de Saint-Sulpice, en formant un col d'où elle s'échappe en deux ruisseaux vers le Couesnon, où elle va se jeter. Ce joli groupe de collines rocailleuses est appelé le Nid aux Crocs. La vallée qu'elle dessine se nomme le Val de Gibari, et ses grasses prairies fournissent une grande partie du beurre connu des gourmets sous le nom de beurre de la Pré-Valais. À l'endroit où la promenade aboutit aux fortifications, s'élève une tour nommée la Tour du Papegaud. À partir de cette construction carrée sur laquelle était bâtie la maison où logeait Mademoiselle de Verneuil, règne tantôt une muraille, tantôt le roc quand il offre des tables droites. Et la partie de la ville assise sur cette haute base inexpugnable décrit une vaste demi-lune au bout de laquelle les roches s'inclinent et se creusent pour laisser passage aux Nançons. Là est située la porte qui mène au faubourg de Saint-Sulpice, dont le nom est commun à la porte et au faubourg. Puis, sur un mamelon de granit qui domine trois vallons dans lesquels se réunissent plusieurs routes, surgissent les vieux créneaux et les tours féodales du château de Fougères, l'une des plus immenses constructions faites par les ducs de Bretagne, murailles hautes de 15 toises, épaisses de 15 pieds, fortifiées à l'est par un étang, d'où sort le Nançon qui coule dans ses fossés et fait tourner des moulins entre la porte Saint-Sulpice et les ponts-levis de la forteresse, défendue à l'ouest par la roideur des blocs de granit sur lesquels elle repose. Ainsi, depuis la promenade jusqu'à ce magnifique débris du Moyen-Âge, enveloppé de ses manteaux de lierre, paré de ses tours carrées ou rondes, où peut se loger dans chacune un régiment entier, le château, la ville et son clocher, protégés par des murailles à pans droits ou par des escarpements taillés à pic, forment un vaste fer à cheval garni de précipices sur lesquels, à l'aide du temps, les Bretons ont tracé quelques étroits sentiers. Ça et là, des blocs s'avancent comme des ornements. Ici, les eaux suintent par des cassures d'où sortent des arbres rachitiques. Plus loin, quelques tables de granit moins droites que les autres nourrissent de la verdure qui attire les chèvres. Puis, partout, des bruyères, venues entre plusieurs fentes humides, tapissent de leurs guirlandes roses de noires anfractuosités. Au fond de cet immense entonnoir, la petite rivière serpente dans une prairie toujours fraîche et mollement posée comme un tapis. Au pied du château et entre plusieurs masses de granit s'élève l'église dédiée à Saint-Sulpice qui donne son nom à un faubourg situé par-delà le Nançon. Ce faubourg, comme jeté au fond d'un abîme, et son église, dont le clocher pointu n'arrive pas à la hauteur des roches qui semblent près de tomber sur elle et sur les chaumières qui l'entourent, sont pittoresquement baignées par quelques affluents du Nançon, ombragés par des arbres et décorés par des jardins. Ils coupent irrégulièrement la demi-lune que décrivent la promenade, la ville et le château, et produisent, par leurs détails, de naïves oppositions avec les graves spectacles de l'amphithéâtre auxquels ils font face. Enfin, Fougères tout entier, ses faubourgs et ses églises, les montagnes même de Saint-Sulpice, sont encadrées par les hauteurs de Rillet qui font partie de l'enceinte générale de la grande vallée du Couesnon. Tels sont les traits les plus saillants de cette nature, dont le principal caractère est une âpreté sauvage, adoucie par de riants motifs, par un heureux mélange des travaux les plus magnifiques de l'homme, avec les caprices d'un sol tourmenté par des oppositions inattendues, par je ne sais quoi d'imprévu, qui surprend, étonne et confond. Nulle part en France le voyageur ne rencontre de contraste aussi grandiose que ceux offerts par le grand bassin du Couesnon et par les vallées perdues entre les rochers de Fougères et les hauteurs de Rillet. C'est de ces beautés inouïes où le hasard triomphe et auxquelles ne manque aucune des harmonies de la nature. Là, des eaux claires, limpides, courantes, des montagnes vêtues par la puissante végétation de ces contrées, des rochers sombres et des fabriques élégantes, des fortifications élevées par la nature et des tours de granit bâties par les hommes, puis tous les artifices de la lumière et de l'ombre, toutes les oppositions entre les différents feuillages, tant prisés par les dessinateurs, des groupes de maisons où foisonne une population active et des places désertes où le granit ne souffre pas même les mousses blanches qui s'accrochent aux pierres. Enfin, toutes les idées qu'on demande à un paysage, de la grâce et de l'horreur, un poème plein de renaissante magie, de tableaux sublimes, de délicieuses rusticités. La Bretagne est là, dans sa fleur. La tour dite du Papegaud, sur laquelle est bâtie la maison occupée par Mademoiselle de Verneuil, a sa base au fond même du précipice et s'élève jusqu'à l'esplanade pratiquée en corniche devant l'église de Saint-Léonard. De cette maison isolée sur trois côtés, on embrasse à la fois le grand fer à cheval qui commence à la tour même, la vallée tortueuse du Nançon et la place Saint-Léonard. Elle fait partie d'une rangée de logis trois fois séculaires et construit en bois située sur une ligne parallèle au flanc septentrional de l'église avec laquelle il forme une impasse dont la sortie donne dans une rue en pente qui longe l'église et mène à la porte Saint-Léonard vers laquelle descendait Mademoiselle de Verneuil. Marie négligea naturellement d'entrer sur la place de l'église au-dessous de laquelle elle était et se dirigea vers la promenade. Lorsqu'elle eut franchi la petite barrière peinte en vert qui se trouvait devant le poste alors établi dans la tour de la porte Saint-Léonard, la magnificence du spectacle rendit un instant ses passions muettes. Elle admira la vaste portion de la grande vallée du Couesnon que ses yeux embrassaient depuis le sommet de la Pèlerine jusqu'au plateau par où passe le chemin de Vitré, puis ses yeux se reposèrent sur le nid aux crocs et sur les sinuosités du val de Gibary dont les crêtes étaient baignées par les lueurs vaporeuses du soleil couchant. Elle fut presque effrayée par la profondeur de la vallée du Nançon, dont les plus hauts peupliers atteignaient à peine au mur des jardins situés au-dessous de l'escalier de la reine. Enfin, elle marcha de surprise en surprise jusqu'au point où elle put apercevoir et la grande vallée à travers le val de Gibary et le délicieux paysage encadré par le fer à cheval de la ville, par les rochers de Saint-Sulpice et par les hauteurs de Rillet. À cette heure du jour, la fumée des maisons du faubourg et des vallées formait dans les airs un nuage qui ne laissait poindre les objets qu'à travers un dais bleuâtre. Les teintes trop vives du jour commençaient à s'abolir. Le firmament prenait un ton gris de perles. La lune jetait ses voiles de lumière sur ce bel abîme. Tout, enfin, tendait à plonger l'âme dans la rêverie et l'aider à évoquer les êtres chers. Tout à coup, ni les toits en bardeaux du faubourg Saint-Sulpice, ni son église, dont la flèche audacieuse se perd dans la profondeur de la vallée, ni les manteaux séculaires de lierre et de clématite dont s'enveloppent les murailles de la vieille forteresse à travers laquelle le Nançon bouillonne sous la roue des moulins. Enfin, rien dans ce paysage ne l'intéressa plus. En vain, le soleil couchant jeta-t-il sa poussière d'or et ses nappes rouges sur les gracieuses habitations semées dans les rochers, au fond des eaux et sur les prés. Elle resta immobile devant les roches de Saint-Sulpice. L'espérance insensée qui l'avait amenée sur la promenade s'était miraculeusement réalisée. À travers les ajoncs et les genêts qui croissent sur les sommets opposés, elle crut reconnaître, malgré la peau de bique dont ils étaient vêtus, plusieurs convives de la vivetière, parmi lesquels se distinguait le gars, dont les moindres mouvements se dessinèrent dans la lumière adoucie du soleil couchant. À quelques pas en arrière du groupe principal, elle vit sa redoutable ennemie, Madame Dugas. Pendant un moment, Mademoiselle de Verneuil put penser qu'elle rêvait, mais la haine de sa rivale lui prouva bientôt que tout vivait dans ce rêve. L'attention profonde qu'excitait en elle le plus petit geste du marquis l'empêcha de remarquer le soin avec lequel Madame Dugas la mirait avec son long fusil. Bientôt, un coup de feu réveilla les échos des montagnes, et la balle qui siffla près de Marie lui révéla l'adresse de sa rivale. « Elle m'envoie sa carte !» se dit-elle en souriant. À l'instant, de nombreux qui-vives retentirent, de sentinelle en sentinelle, depuis le château jusqu'à la porte Saint-Léonard, et trahir au chouan la prudence des fougerets, puisque la partie la moins vulnérable de leur rempart était si bien gardée. « C'est elle et c'est lui !» se dit Marie. Aller à la recherche du marquis, le suivre, le surprendre, fut une idée conçue avec la rapidité de l'éclair. « Je suis sans armes !» s'écria-t-elle. Elle songea qu'au moment de son départ à Paris, elle avait jeté dans un de ses cartons un élégant poignard, jadis porté par une sultane dont elle voulut se munir en venant sur le théâtre de la guerre, comme ces plaisants qui s'approvisionnent d'albums pour les idées qu'ils auront en voyage. Mais elle fut alors moins séduite par la perspective d'avoir du sang à répandre que par le plaisir de porter un joli kandjar orné de pierreries et de jouer avec cette lame pure comme un regard. 3 jours auparavant, elle avait bien vivement regretté d'avoir laissé cette arme dans ses cartons quand, pour se soustraire à l'odieux supplice que lui réservait sa rivale, elle avait souhaité de se tuer. En un instant, elle retourna chez elle, trouva le poignard, le mit à sa ceinture, serra autour de ses épaules et de sa taille un grand châle, enveloppa ses cheveux d'une dentelle noire, se couvrit la tête d'un de ses chapeaux à large bord que portaient les chouans et qui appartenait à un domestique de sa maison, et avec cette présence d'esprit que prêtent parfois les passions, elle prit le gant du marquis, donné par Marchataire, comme un passeport, puis, après avoir répondu à Francine effrayée, « Que veux-tu? J'irai le chercher dans l'enfer !» elle revint sur la promenade. Le gars était encore à la même place, mais seul. D'après la direction de sa longue vue, il paraissait examiner, avec l'attention scrupuleuse d'un homme de guerre, les différents passages du Nançon, l'escalier de la Reine et le chemin qui, de la porte Saint-Sulpice, tourne entre cette église et va rejoindre les grandes routes sous le feu du château. Mademoiselle de Verneuil s'élança dans les petits sentiers tracés par les chèvres et leurs pâtres sur le versant de la promenade, gagna l'escalier de la reine, arriva au fond du précipice, passa le Nançon, traversa le faubourg, devina, comme l'oiseau dans le désert, sa route au milieu des dangereux escarpements des roches de Saint-Sulpice, atteignit bientôt une route glissante tracée sur des blocs de granit, et malgré les genêts, les ajoncs piquants, les rocailles qui la hérissaient, elle se mit à la gravir avec ce degré d'énergie inconnu peut-être à l'homme, mais que la femme entraînée par la passion possède momentanément. La nuit surprit Marie à l'instant où, parvenue sur les sommets, elle tâchait de reconnaître, à la faveur des pâles rayons de la lune, le chemin qu'avait dû prendre le marquis. Une recherche obstinée, faite sans aucun succès, et le silence qui régnait dans la campagne lui apprirent la retraite des chouans et de leur chef. Cet effort de passion tomba tout à coup avec l'espoir qui l'avait inspiré. En se retrouvant seule, pendant la nuit, au milieu d'un pays inconnu, en proie à la guerre, elle se mit à réfléchir et les recommandations de Hulot, le coup de feu de Madame Dugas, la firent frissonner de peur. Le calme de la nuit, si profond sur les montagnes, lui permit d'entendre la moindre feuille errante, même à de grandes distances, et ses bruits légers vibraient dans les airs comme pour donner une triste mesure de la solitude ou du silence. Le vent agissait sur la haute région et emportait les nuages avec violence, en produisant des alternatives d'ombre et de lumière dont les effets augmentèrent sa terreur, en donnant des apparences fantastiques et terribles aux objets les plus inoffensifs. Elle tourna les yeux vers les maisons de fougères dont les lueurs domestiques brillaient comme autant d'étoiles terrestres, et tout à coup elle vit distinctement la tour du Pape Gault. Elle n'avait qu'une faible distance à parcourir pour retourner chez elle, mais cette distance était un précipice. Elle se souvenait assez des abîmes qui bordaient les trois sentiers par où elle était venue, pour savoir qu'elle courait plus de risques en voulant revenir à Fougères qu'en poursuivant son entreprise. Elle pensa que le gant du marquis écarterait tous les périls de sa promenade nocturne si les chouans tenaient la campagne. Madame Dugas seule pouvait être redoutable. À cette idée, Marie pressa son poignard et tâcha de se diriger vers une maison de campagne dont elle avait entrevu les toits en arrivant sur les rochers de Saint-Sulpice. Mais elle marcha lentement, car elle avait jusqu'alors ignoré la sombre majesté qui pèse sur un être solitaire pendant la nuit, au milieu d'un site sauvage où de toutes parts de hautes montagnes penchent leurs têtes comme des géants assemblés. Le frôlement de sa robe, arrêté par des ajoncs, la fit tressaillir plus d'une fois, et plus d'une fois elle hâta le pas pour le ralentir encore en croyant sa dernière heure venue. Mais bientôt les circonstances prirent un caractère auquel les hommes les plus intrépides n'eussent peut-être pas résisté, et plongèrent Mademoiselle de Verneuil dans une de ces terreurs qui pressent tellement les ressorts de la vie qu'alors tout est extrême chez les individus, la force comme la faiblesse. Les êtres les plus faibles font alors des actes d'une force inouïe et les plus forts deviennent fous de peur. Marie entendit à une faible distance des bruits étranges, distincts et vagues tout à la fois. Comme la nuit était tour à tour sombre et lumineuse, ils annonçaient de la confusion, du tumulte, et l'oreille se fatiguait à les percevoir. Il sortait du sein de la terre, qui semblait ébranlée sous les pieds d'une immense multitude d'hommes en marche. Un moment de clarté permit à Mademoiselle de Verneuil d'apercevoir à quelques pas d'elle une longue file de hideuses figures qui s'agitaient comme les épis d'un champ et glissaient à la manière des fantômes. Mais elle les vit à peine, car aussitôt l'obscurité retomba comme un rideau noir et lui déroba cet épouvantable tableau plein d'yeux jaunes et brillants. Elle se recula vivement et courut sur le haut d'un talus pour échapper à trois de ces horribles figures qui venaient à elle. « L'as-tu vu ? » demanda l'un. « J'ai senti un vent froid quand il a passé près de moi, » répondit une voix rauque. « Et moi, j'ai respiré l'air humide et l'odeur des cimetières, » dit le troisième. « Est-il blanc ? » reprit le premier. « Pourquoi ? » dit le second. « Est-il revenu seul de tous ceux qui sont morts à la pèlerine ?»« Ah, pourquoi ? » répondit le troisième. « Pourquoi fait-on des préférences à ceux qui sont du Sacré-Cœur ? Au surplus, j'aime mieux mourir sans confession que d'errer comme lui, sans boire ni manger, sans avoir ni sang dans les veines ni chair sur les os. » Ah ! Cette exclamation, ou plutôt ce cri terrible, partit du groupe quand un des trois chouans montra du doigt les formes sveltes et le visage pâle de Mademoiselle de Verneuil qui se sauvait avec une effrayante rapidité sans qu'ils entendissent le moindre bruit. « Le voilà ! Le voici ! Où est-il ? Là ! Ici ! Il est parti ! Non ! Si ! Le vois-tu ?» Ces phrases retentirent comme le murmure monotone des vagues sur la grève. Mademoiselle de Verneuil marcha courageusement dans la direction de la maison et vit les figures indistinctes d'une multitude qui fuyait à son approche en donnant les signes d'une frayeur panique. Elle était comme emportée par une puissance inconnue dont l'influence la matait. La légèreté de son corps, qui lui semblait inexplicable, devenait un nouveau sujet d'effroi pour elle-même. Ces figures qui se levaient par masse à son approche et comme de dessous terre où elle lui paraissait couchée, laissaient échapper des gémissements qui n'avaient rien d'humain. Enfin, elle arriva, non sans peine, dans un jardin dévasté dont les haies et les barrières étaient brisées. Arrêtée par une sentinelle, elle lui montra son gant. La lune, ayant alors éclairé sa figure, la carabine échappa des mains du chouan qui déjà mettait Marie en joue, mais qui, à son aspect, jeta le cri rauque dont retentissait la campagne. Elle aperçut de grands bâtiments où quelques lueurs indiquaient des pièces habitées et parvint auprès des murs sans rencontrer d'obstacle. Par la première fenêtre vers laquelle elle se dirigea, elle vit Madame Dugas avec les chefs convoqués à la vivetière. Étourdie, et par cet aspect et par le sentiment de son danger, elle se rejeta violemment sur une petite ouverture défendue par de gros barreaux de fer et distingua, dans une longue salle voûtée, le marquis, seul et triste, à deux pas d'elle. Les reflets du feu, devant lequel il occupait une chaise grossière, illuminait son visage de teintes rougeâtres et vacillantes qui imprimait à cette scène le caractère d'une vision. Immobile et tremblante, la pauvre fille se colla au barreau et par le silence profond qui régnait, elle espéra l'entendre s'il parlait. En le voyant abattu, découragé, pâle, elle se flatta d'être une des causes de sa tristesse. Puis sa colère s'échangea en commisération, sa commisération en tendresse, et elle sentit soudain qu'elle n'avait pas été amenée jusque-là par la vengeance seulement. Le marquis se leva, tourna la tête, et resta stupéfait en apercevant, comme dans un nuage, la figure de mademoiselle de Verneuil. Il laissa échapper un geste d'impatience et de dédain en s'écriant « Je vois donc partout cette diablesse, même quand je veille !» Ce profond mépris, conçu pour elle, arracha à la pauvre fille un rire d'égarement qui fit tressaillir le jeune chef, et il s'élança vers la croisée. Mademoiselle de Verneuil se sauva. Elle entendit près d'elle les pas d'un homme qu'elle crut être Montauran, et pour le fuir, elle ne connut plus d'obstacle. Elle eut traversé les murs et volé dans les airs. Elle aurait trouvé le chemin de l'enfer pour éviter de relire en traits de flamme ces mots « Il te méprise » écrits sur le front de cet homme, et qu'une voix intérieure lui criait alors avec l'éclat d'une trompette. Après avoir marché sans savoir par où elle passait, elle s'arrêta en se sentant pénétrée par un air humide. Effrayée par le bruit des pas de plusieurs personnes et poussée par la peur, elle descendit un escalier qui la mena au fond d'une cave. Arrivée à la dernière marche, elle prêta l'oreille pour tâcher de reconnaître la direction que prenaient ceux qui la poursuivaient, mais malgré des rumeurs extérieures assez vives, elle entendit les lugubres gémissements d'une voix humaine qui ajoutèrent à son horreur. Un jet de lumière parti du haut de l'escalier lui fit craindre que sa retraite ne fût connue de ses persécuteurs, et pour leur échapper, elle trouva de nouvelles forces. Il lui fut très difficile de s'expliquer quelques instants après, et quand elle recueillit ses idées, par quel moyen elle avait pu grimper sur le petit mur où elle s'était cachée. Elle ne s'aperçut même pas d'abord de la gêne que la position de son corps lui fit éprouver, mais cette gêne finit par devenir intolérable, car elle ressemblait, sous l'arceau d'une voûte, à la Vénus accroupie qu'un amateur aurait placé dans une niche trop étroite. Ce mur, assez large et construit en granit, formait une séparation entre le passage d'un escalier et d'un caveau d'où partaient les gémissements. Elle vit bientôt un homme couvert de peau de chèvre descendant au-dessous d'elle et tournant sous la voûte sans faire le moindre mouvement qui annonça une recherche empressée. Impatiente de savoir s'il se présenterait quelque chance de salut pour elle, mademoiselle de Verneuil attendit avec anxiété que la lumière portée par l'inconnu éclaira le caveau où elle apercevait à terre une masse informe mais animée qui essayait d'atteindre à une certaine partie de la muraille par des mouvements violents et répétés, semblables aux brusques contorsions d'une carpe mise hors de l'eau sur la rive. Une petite torche de résine répandit bientôt sa lueur bleuâtre et incertaine dans le caveau. Malgré la sombre poésie que l'imagination de mademoiselle de Verneuil répandait sur ses voûtes qui répercutaient les sons d'une prière douloureuse, elle fut obligée de reconnaître qu'elle se trouvait dans une cuisine souterraine abandonnée depuis longtemps. Éclairée, la masse informe devint un petit homme très gros dont tous les membres avaient été attachés avec précaution mais qui semblait avoir été laissé sur les dalles humides sans aucun soin par ceux qui s'en étaient emparés. À l'aspect de l'étranger, tenant d'une main la torche et de l'autre un fagot, Le captif poussa un gémissement profond qui attaqua si vivement la sensibilité de mademoiselle de Verneuil qu'elle oublia sa propre terreur, son désespoir, la gêne horrible de tous ses membres pliés qui s'engourdissaient. Elle tâcha de rester immobile. Le chouan jeta son fagot dans la cheminée après s'être assuré de la solidité d'une vieille crémaillère qui pendait le long d'une haute plaque en fonte et mit le feu au bois avec sa torche. Mademoiselle de Verneuil ne reconnut pas alors sans effroi ce rusé pillemiche auquel sa rivale l'avait livré et dont la figure illuminée par la flamme ressemblait à celle de ces petits hommes de buis grotesquement sculptés en Allemagne. La plainte, échappée à son prisonnier, produisit un rire immense sur ce visage sillonné de rides et brûlé par le soleil. « Tu vois, dit-il au patient, que nous autres chrétiens, nous ne manquons pas comme toi à notre parole. Ce feu-là va te dégourdir les jambes, la langue et les mains. Kien, kien, je ne vois point de l'échefrite à te mettre sous les pieds. Ils sont si dodus que la graisse pourrait éteindre le feu. Ta maison est donc bien mal montée qu'on n'y trouve pas de quoi donner au maître toutes ses aises quand il se chauffe. » La victime jeta un cri aigu comme si elle eût espéré se faire entendre par-delà les voûtes et attirer un libérateur. « Oh, vous pouvez chanter à gogo, monsieur d'Orgemont. Ils sont tous couchés là-haut, et marche à terre me suit. Il fermera la porte de la cave. » Tout en parlant, Pillemiche sondait, du bout de sa carabine, le manteau de la cheminée, les dalles qui pavaient la cuisine, les murs et les fourneaux, pour essayer de découvrir la cachette où l'avare avait mis son or. Cette recherche se faisait avec une telle habileté que d'Orgemont demeura silencieux, comme s'il eût craint d'avoir été trahi par quelque serviteur effrayé, car, quoiqu'il ne se fût confié à personne, ses habitudes auraient pu donner lieu à des inductions vraies. Pillemiche se retournait parfois brusquement en regardant sa victime comme dans ce jeu où les enfants essayent de deviner par l'expression naïve de celui qui a caché un objet convenu s'il s'en approche ou s'il s'en éloigne. D'Orgemont feignit quelque terreur en voyant le chouan frapper les fourneaux qui rendirent un son creux et parut vouloir amuser ainsi pendant quelque temps l'avide crédulité de Pillemiche. En ce moment, trois autres chouans qui se précipitèrent dans l'escalier entrèrent tout à coup dans la cuisine. À l'aspect de marche à terre, Pillemiche discontinua sa recherche après avoir jeté sur d'Orgemont un regard empreint de toute la férocité que réveillait son avarice trompée. « Marie Lambrequin est ressuscitée !» dit marche à terre en gardant une attitude qui annonçait que tout autre intérêt pâlissait devant une si grave nouvelle. « Ça ne m'étonne pas !» répondit Pillemiche. « Il communiait si souvent, le bon Dieu semblait n'être qu'à lui. « Ha ha !» reprit Ménabien. « Ça lui a servi comme des souliers à un mort. Voilà-t-il pas qu'il n'avait pas reçu l'absolution avant cette affaire de la pèlerine ? Il a margaudé la fille à Goguelu et s'est trouvé sous le coup d'un péché mortel. Donc l'abbé Gudin dit comme ça qu'il va rester 2 mois comme un esprit avant de revenir tout à fait. Nous l'avons vu très tous passer devant nous. Il est pâle, il est froid, il est léger, il sent le cimetière. Et sa révérence a bien dit que si l'esprit pouvait s'emparer de quelqu'un, il s'en ferait un compagnon, reprit le quatrième chouan. La figure grotesque de ce dernier interlocuteur tira marche à terre de la rêverie religieuse où l'avait plongé l'accomplissement d'un miracle que la ferveur pouvait, selon l'abbé Gudin, renouveler chez tout pieux défenseur de la religion et du roi. Tu vois, Galop Chepine, dit-il au néophyte avec une certaine gravité, à quoi nous mènent les plus légères omissions des devoirs commandés par notre sainte religion. C'est un avis que nous donne sainte Anne d'Auray d'être inexorable entre nous pour les moindres fautes. Ton cousin Pille-Miche a demandé pour toi la surveillance de Fougères. Le gars consent à te la confier et tu seras bien payé. Mais tu sais de quelle farine nous pétrissons la galette des traîtres.
Oui, monsieur Marchater.
Tu sais pourquoi je te dis cela? Quelques-uns prétendent que tu aimes le cidre et les gros sous, mais il ne s'agit pas ici de tondre les œufs, il faut n'être qu'à nous.
Révérence, parlez, monsieur Marchater. Le cidre et les sous sont de bonnes choses qui n'empêchent point le salut.
Si le cousin fait quelque sottise, dit Pille-Miche, ce sera par ignorance. De quelque manière qu'un malheur vienne, s'écria Marchater d'un son de voix qui fit trembler la voûte, je ne le manquerai pas.
Tu m'en réponds,
ajouta-t-il en se tournant vers Pille-Miche, car s'il tombe en faute, je m'en prendrai à ce qui double ta peau de bique.
Mais sous votre respect, monsieur Marchater, reprit Galop Chepine, est-ce qu'il ne vous est pas souvent arrivé de croire que les contre-chiens étaient des chiens?
Mon ami, répliqua Marchater d'un ton sec, que ça ne t'arrive plus, ou je te couperai en deux comme un navet. Quant aux envoyés du gars, ils auront son gant. Mais depuis cette affaire de la vivetière, la grande garce y bout un ruban vert.
Pille-Miche poussa violemment le coude de son camarade en lui montrant d'Orgemont qui feignait de dormir.
Mais Marchater et Pille-Miche savaient par expérience que personne n'avait encore sommeillé au coin de leur feu. Et quoique les dernières paroles dites à Galop Chepine eussent été prononcées à voix basse, comme elles pouvaient avoir été comprises par le patient, les quatre chouans le regardèrent tous pendant un moment et pensèrent sans doute que la peur lui avait ôté l'usage de ses sens. Tout à coup, sur un léger signe de Marchater, Pille-Miche ôta les souliers et les bas de Dorgemont. Menabien et Galop Chepine le saisirent à bras le corps, le portèrent au feu, puis Marchater prit un des liens du fagot et attacha les pieds de l'avare à la crémaillère. L'ensemble de ces mouvements et leur incroyable célérité firent pousser à la victime des cris qui devinrent déchirants quand Pille-Miche eut rassemblé des charbons sous les jambes.
Mes amis, mes bons amis, s'écria Dorgemont, vous allez me faire mal, je suis chrétien comme vous.
Tu mens par ta gorge, lui répondit Marchater. Ton frère a renié Dieu. Quant à toi, tu as acheté l'abbaye de Juvigny. L'abbé Guidin dit que l'on peut sans scrupule rôtir les apostats.
Mais, mes frères en Dieu, je ne refuse pas de vous payer.
Nous t'avions donné 15 jours, 2 mois se sont passés, et voilà Galop Chepine qui n'a rien reçu.
Tu n'as donc rien reçu, Galop Chepine?
Demanda l'avare avec désespoir.
Rien, monsieur Dorgemont,
répondit Galop Chepine effrayé. Les cris qui s'étaient convertis en un grognement continu, comme le râle d'un mourant, recommencèrent avec une violence inouïe. Aussi habitués à ce spectacle qu'à voir marcher leurs chiens sans sabots, les quatre chouans contemplaient si froidement Dorgemont, qui se tortillait et hurlait, qu'ils ressemblaient à des voyageurs attendant devant la cheminée d'une auberge si le rôt est assez cuit pour être mangé.
« Je meurs, je meurs !» cria la victime. « Et vous n'aurez pas mon argent !»
Malgré la violence de ses cris, Pille-Miche s'aperçut que le feu ne mordait pas encore la peau. L'on attisa donc très artistement les charbons de manière à faire légèrement flamber le feu. Dorgemont dit alors d'une voix abattue,
mes amis, déliez-moi. Que voulez-vous? 100 écus, 1 000 écus, 10 000 écus, 100 000 écus, je vous offre 200 écus. »
Cette voix était si lamentable que mademoiselle de Vernon laissa échapper une exclamation.
« Qui a parlé ?» demanda Marche à terre.
Les chouans jetèrent autour d'eux des regards effarés. Ces hommes, si braves, sous la bouche meurtrière des canons, ne tenaient pas devant un esprit. Pillemiche seul écoutait, sans distraction, la confession que des douleurs croissantes arrachaient à sa victime.
« 500 écus, oui, je les donne !» disait l'avare.
« Bah, où sont-ils ? » répondit tranquillement Pillemiche.
« Hein ? Ils sont sous le premier pommier, Sainte Vierge, au fond du jardin à gauche. Vous êtes des brigands, des voleurs. Ah, je meurs ! Il y a là 10 000 francs !»«
Je ne veux pas des francs, » reprit Marche à terre. « Il nous faut des livres. Les écus de ta république ont des figures païennes qui n'auront jamais cours. »
Ils sont en livres, en bons louis d'or. Mais déliez-moi, déliez-moi. Vous savez où est ma vie, mon trésor. »
Les quatre chouans se regardèrent en cherchant celui d'entre eux auquel ils pouvaient se fier pour l'envoyer déterrer la somme. En ce moment, cette cruauté de cannibale fit tellement horreur à mademoiselle de Verneuil que sans savoir si le rôle que lui assignait sa figure pâle la préserverait encore de tout danger, elle s'écria courageusement d'un son de voix grave « Ne craignez-vous pas la colère de Dieu ? Détachez-le, barbare !» Les chouans levèrent la tête, ils aperçurent dans les airs des yeux qui brillaient comme 2 étoiles et s'enfuirent épouvantés. Mademoiselle de Verneuil sauta dans la cuisine, courut à Dorgemont, le tira si violemment du feu que les liens du fagot cédèrent. Puis, du tranchant de son poignard, elle coupa les cordes avec lesquelles il avait été garrotté. Quand l'avare fut libre et debout, la première expression de son visage fut un rire douloureux mais sardonique.
« Allez, allez au pommier, brigand !» dit-il.
Oh, voilà 2 fois que je les leur. Aussi ne me reprendront-ils pas une 3e ? »
En ce moment, une voix de femme retentit au dehors.
Un esprit ? Un esprit ?
Criait madame Dugas.
Imbécile ! C'est elle ! 1 000 écus qui m'apportera la tête de cette catin !
Mademoiselle de Verneuil pâlit, mais l'avare sourit, lui prit la main, la tira sous le manteau de la cheminée, l'empêcha de laisser les traces de son passage en la conduisant de manière à ne pas déranger le feu qui n'occupait qu'un très petit espace. Il fit partir un ressort, la plaque de fonte s'enleva, et quand leurs ennemis communs rentrèrent dans le caveau, la lourde porte de la cachette était déjà retombée sans bruit. La Parisienne comprit alors le but des mouvements de carpe qu'elle avait vu faire au malheureux banquier.
« Voyez-vous, madame !» s'écria Marche à terre. « L'esprit a pris le bleu pour compagnon !»
L'effroi dut être grand, car ces paroles furent suivies d'un si profond silence que Dorgemont et sa compagne entendirent les chouans prononçant à voix basse « Ave Sancta Anna !» Auriaca gratia plena, Dominus tecum, etc.
Il prie, les imbéciles, s'écria Dorgemont. N'avez-vous pas peur, dit mademoiselle de Verneuil en interrompant son compagnon, de faire découvrir notre...
Un rire du vieil avare dissipa les craintes de la jeune parisienne. La plaque est dans une table de granit qui a 10 pouces de profondeur. Nous les entendons et ils ne nous entendent pas. » Puis il prit doucement la main de sa libératrice, les plaça vers une fissure par où sortaient des bouffées de vent frais, et elle devina que cette ouverture avait été pratiquée dans le tuyau de la cheminée.
Ah ! Reprit Dorgemont. Diable ! Les jambes me cuisent un peu. Cette jument de charrette, comme on l'appelle à Nantes, n'est pas assez sotte pour contredire ses fidèles. Elle sait bien que s'ils n'étaient pas si brutes, ils ne se battraient pas contre leurs intérêts. La voilà qui prie aussi. Elle doit être bonne à voir en disant son ave à Sainte Anne d'Auray. Elle ferait mieux de détrousser quelques diligences pour me rembourser les 4 000 francs qu'elle me doit. Avec les intérêts, les frais, ça va bien à 4 780 francs et des centimes. » La prière finie, les chouans se levèrent et partirent. Le vieux Dorgemont serra la main de mademoiselle de Verneuil comme pour la prévenir que néanmoins le danger existait toujours. « Non, madame !» s'écria Pilleux Miche après quelques minutes de silence. « Vous resteriez là 10 ans, ils ne reviendront pas !»« Mais elle n'est pas sortie, elle doit être ici !» dit obstinément la jument de charrette. « Non, madame, non, ils se sont envolés à travers les murs. Le diable n'a-t-il pas déjà emporté là, devant nous, un assermenté ? Comment ? Toi, Pilleux Miche, avare comme lui, ne devines-tu pas que le vieux Cancre aura bien pu dépenser quelques milliers de livres pour construire dans les fondations de cette voûte un réduit dont l'entrée est cachée par un secret ? L'avare et la jeune fille entendirent un gros rire échapper à Pilleux Miche. « Ben vrai ? » dit-il. « Reste ici, » reprit madame Dugas. « Attends-les à la sortie. Pour un seul coup de fusil, je te donnerai tout ce que tu trouveras dans le trésor de notre usurier. Si tu veux que je te pardonne d'avoir vendu cette fille quand je t'avais dit de la tuer, obéis-moi. » « Usurier !» dit le vieux Dorgemont. « Je ne lui avais prêté qu'à 9%. Il est vrai que j'ai une caution hypothécaire. Mais enfin, voyez comme elle est reconnaissante. Allez, madame, si Dieu nous punit du mal, le diable est là pour nous punir du bien. Et l'homme, placé entre ces deux termes-là, sans rien savoir de l'avenir, m'a toujours fait l'effet d'une règle de 3 dont l'X est introuvable. » Il laissa échapper un soupir creux qui lui était particulier, car en passant par son larynx, l'air semblait y rencontrer et attaquer 2 vieilles cordes détendues. Le bruit que firent Pilleux Miche et madame Dugas en sondant de nouveau les murs, les voûtes et les dalles parut rassurer Dorgemont, qui saisit la main de sa libératrice pour l'aider à monter une étroite vis Saint-Gilles pratiquée dans l'épaisseur d'un mur en granit. Après avoir gravi 20 marches, la lueur d'une lampe éclaira faiblement leur tête. L'avare s'arrêta, se tourna vers sa compagne en examinant le visage comme s'il eût regardé, manié et remanié, une lettre de change douteuse à escompter, et poussa son terrible soupir. « En vous mettant ici, dit-il après un moment de silence, je vous ai remboursé intégralement le service que vous m'avez rendu, donc je ne vois pas pourquoi je vous donnerais. Monsieur, laissez-moi là, je ne vous demande rien, dit-elle. » Ces derniers mots, et peut-être le dédain qu'exprima cette belle figure, rassurèrent le petit vieillard, car il répondit non sans un soupir. « Ah, en vous conduisant ici, j'en ai trop fait pour ne pas continuer. » Il aida poliment Marie à monter quelques marches assez singulièrement disposées et l'introduisit, moitié de bonne grâce, moitié rechignant, dans un petit cabinet de 4 pieds carrés, éclairé par une lampe suspendue à la voûte. Il était facile de voir que l'avare avait pris toutes ses précautions pour passer plus d'un jour dans cette retraite, si les événements de la guerre civile l'eussent contraint à y rester plus longtemps. « N'approchez pas du mur, vous pourriez vous blanchir, » dit tout à coup Dorgemont. Et il mit avec assez de précipitation
sa main entre le châle de la jeune fille et la muraille qui semblait fraîchement recrépie. Le geste du vieil avare produisit un effet tout contraire à celui qu'il attendait. Mademoiselle de Verneuil regarda soudain devant elle et vit dans un angle une sorte de construction dont la forme lui arracha un cri de terreur, car elle devina qu'une créature humaine avait été enduite de mortier et placée là, debout. D'Orgemont lui fit un signe effrayant pour l'engager à se taire, et ses petits yeux d'un bleu de faïence annoncèrent autant d'effroi que ceux de sa compagne. « Sotte, croyez-vous que je l'ai assassiné ? C'est mon frère !» dit-il en variant son soupir d'une manière lugubre. « C'est le premier recteur qui se soit assermenté. Voilà le seul asile où il ait été en sûreté contre la fureur des chouans et des autres prêtres. » Poursuivre un digne homme qui avait tant d'ordre. C'était mon aîné. Lui seul a eu la patience de m'apprendre le calcul décimal. Oh, c'était un bon prêtre. Il avait de l'économie et savait amasser. Il y a 4 ans qu'il est mort. Je ne sais pas de quelle maladie, mais voyez-vous, ces prêtres, ça a l'habitude de s'agenouiller de temps en temps pour prier, et il n'a peut-être pas pu s'accoutumer à rester debout comme moi. Je l'ai mis là. Autre part, il l'aurait déterré. Un jour, je pourrais l'ensevelir en terre sainte, comme disait. Un jour, je pourrais l'ensevelir en terre sainte, comme disait ce pauvre homme qui ne s'est assermenté que par peur. Une larme coula dans les yeux secs du petit vieillard, dont alors la perruque rousse parut moins laide à la jeune fille, qui détourna les yeux par un respect secret pour cette douleur. Mais malgré cet attendrissement, D'Orgemont lui dit encore « N'approchez pas du mur, vous !» Et ses yeux ne quittèrent pas ceux de Mademoiselle de Verneuil, en espérant ainsi l'empêcher d'examiner plus attentivement les parois de ce cabinet où l'air trop raréfié ne suffisait pas au jeu des poumons. Cependant, Marie réussit à dérober un coup d'œil à son Argus, et d'après les bizarres proéminences des murs, elle supposa que l'avare les avait bâtis lui-même avec des sacs d'argent ou d'or. Depuis un moment, D'Orgemont était plongé dans un ravissement grotesque. La douleur que la cuisson lui faisait souffrir aux jambes et sa terreur en voyant un être humain au milieu de ses trésors se lisaient dans chacune de ses rides. Mais en même temps, ses yeux arides exprimaient, par un feu inaccoutumé, la généreuse émotion qu'excitait en lui le périlleux voisinage de sa libératrice, dont la joue rose et blanche attirait le baiser, dont le regard noir et velouté lui amenait au cœur des vagues de sang si chaudes qu'il ne savait plus si c'était signe de vie ou de mort.
« Êtes-vous marié ? » lui demanda-t-il d'une voix tremblante.
« Non, » dit-elle en souriant.
« J'ai quelque chose, » reprit-il en poussant son soupir, « quoique je ne sois pas aussi riche qu'ils le disent tous. Une jeune fille comme vous doit aimer les diamants, les bijoux, les équipages, l'or, » ajouta-t-il en regardant d'un air effaré autour de lui. « J'ai tout cela à donner, après ma mort, et si vous vouliez... »
L'œil du vieillard décelait tant de calculs, même dans cet amour éphémère, qu'en agitant sa tête par un mouvement négatif, Mademoiselle de Verneuil ne put s'empêcher de penser que l'avare ne songeait à l'épouser que pour enterrer son secret dans le cœur d'un autre lui-même. « L'argent, » dit-elle en jetant à D'Orgemont un regard plein d'ironie qui le rendit à la fois heureux et fâché. « L'argent n'est rien pour moi.
Vous seriez trois fois plus riche que vous ne l'êtes si tout l'or que j'ai refusé était là.
N'approchez pas du mur.
Et l'on ne me demandait cependant qu'un regard, ajouta-t-elle avec une incroyable fierté.
Vous avez eu tort. C'était une excellente spéculation. Mais songez donc.
Songez, reprit mademoiselle de Verneuil, que je viens d'entendre retentir là une voix dont un seul accent a pour moi plus de prix que toutes vos richesses.
Vous ne les connaissez pas.
Avant que l'avare n'eût pu l'en empêcher, Marie fit mouvoir, en la touchant du doigt, une petite gravure enluminée qui représentait Louis XV à cheval et vit tout à coup au-dessous d'elle le marquis occupé à charger un tromblon. L'ouverture cachée par le petit panneau sur lequel l'estampe était collée semblait répondre à quelque ornement dans le plafond de la chambre voisine où sans doute couchait le général royaliste. D'Orgemont repoussa avec la plus grande précaution la vieille estampe et regarda la jeune fille d'un air sévère.
« Ne dites pas un mot si vous aimez la vie !» « Vous n'avez pas jeté,
lui dit-il à l'oreille après une pause,
votre grappin sur un petit bâtiment. Savez-vous que le marquis de Montauran possède pour 100 000 livres de revenus en terres affermées qui n'ont pas encore été vendues ?
Or, un décret des consuls que j'avais lu dans le Primidi de l'Ille-et-Vilaine vient d'arrêter les séquestres.
Ah ah, vous trouvez ce gars-là maintenant plus joli homme, n'est-ce pas?
Vos yeux brillent comme de l'huile d'or, tout neuf. Les regards de mademoiselle de Verneuil s'étaient fortement animés en entendant résonner de nouveau une voix bien connue. Depuis qu'elle était là, debout, comme enfouie dans une mine d'argent, le ressort de son âme courbé sous ces événements s'était redressé. Elle semblait avoir pris une résolution sinistre et entrevoir les moyens de la mettre à exécution.
« On ne revient pas d'un tel mépris, se dit-elle, et s'il ne doit plus m'aimer, je veux le tuer. Aucune femme ne l'aura. »«
Non, l'abbé, non !» s'écriait le jeune chef, dont la voix se fit entendre. « Il faut que cela soit ainsi. »«
Monsieur le marquis, » reprit l'abbé Gudin avec hauteur, « vous scandaliserez toute la Bretagne en donnant ce bal à Sainte-James. C'est des prédicateurs et non des danseurs qui remueront nos villages. Ayez des fusils et non des violons. »
« L'abbé, vous avez assez d'esprit pour savoir que ce n'est que dans une assemblée générale de tous nos partisans que je verrai ce que je puis entreprendre avec eux. Un dîner me semble plus favorable pour examiner leur physionomie et connaître leurs intentions que tous les espionnages possibles dont, au surplus, j'ai horreur, nous les ferons causer le verre en main. »
Marie tressaillit en entendant ces paroles, car elle conçut le projet d'aller à ce bal et de s'y venger.
« Me prenez-vous pour un idiot avec votre sermon sur la danse ?» reprit Montauran. « Ne figureriez-vous pas de bon cœur dans une chaconne pour vous retrouver rétabli sous votre nouveau nom de père de la foi ? Ignorez-vous que les Bretons sortent de la messe pour aller danser ?
Ignorez-vous aussi que messieurs Ide de Neuville et d'Andigné ont eu, il y a 5 jours, une conférence avec le premier consul sur la question de rétablir Sa Majesté Louis XVIII. Si je m'apprête en ce moment pour aller risquer un coup de main si téméraire, c'est uniquement pour ajouter à ces négociations le poids de nos souliers ferrés. Ignorez-vous que tous les chefs de la Vendée et même Fontaine parlent de se soumettre ? Ah, monsieur, l'on a évidemment trompé les princes sur l'état de la France.
Les dévouements dont on les entretient sont des dévouements de position. L'abbé, si j'ai mis le pied dans le sang, je ne veux m'y mettre jusqu'à la ceinture qu'à bon escient. Je me suis dévoué au roi et non pas à quatre cerveaux brûlés, à des hommes perdus de dettes comme Rifoel, à des chauffeurs, à... Dites tout de suite, monsieur, à des abbés qui perçoivent des contributions sur le grand chemin pour soutenir la guerre, reprit l'abbé Gudin. Pourquoi ne le dirais-je pas ? Reprit aigrement le marquis. Je dirai plus, les temps héroïques de la Vendée sont passés. Monsieur le marquis, nous saurons faire des miracles sans vous. Oui, comme celui de Marie Lambrequin, répondit en riant le marquis. Allons sans rancune, l'abbé. Je sais que vous payez de votre personne et tirez un bleu aussi bien que vous dites un orémus. Dieu aidant, j'espère vous faire assister une mitre en tête au sacre du roi. Cette dernière phrase eut sans doute un pouvoir magique sur l'abbé, car on entendit sonner une carabine et il s'écria « J'ai 50 cartouches dans mes poches, monsieur le marquis, et ma vie est au roi !»« Voilà encore un de mes débiteurs !» dit l'avare à mademoiselle de Verneuil. « Je ne parle pas de 500 à 600 malheureux écus qu'il m'a empruntés, mais d'une dette de sang qui, j'espère, s'acquittera. Il ne lui arrivera jamais autant de mal que je lui en souhaite à ce sacré jésuite. » Il avait juré la mort de mon frère et soulevait le pays contre lui. Pourquoi ? Parce que le pauvre homme avait eu peur des nouvelles lois. Après avoir appliqué son oreille à un certain endroit de sa cachette, « Les voilà qui décampent, tous ces brigands-là » dit-il. « Ils vont faire encore quelques miracles. Pourvu qu'ils n'essaient pas de me dire adieu comme la dernière fois en mettant le feu à la maison. » Après environ une demi-heure, pendant laquelle mademoiselle de Verneuil et d'Orgemont se regardèrent comme si chacun d'eux eût regardé un tableau, la voix rude et grossière de Galop Chopin cria doucement « Il n'y a plus de danger, monsieur d'Orgemont, mais cette fois-ci, j'ai ben gagné mes 30 écus !»« Mon enfant, » dit l'avare, « jurez-moi de fermer les yeux. » Mademoiselle de Verneuil plaça une de ses mains sur ses paupières, mais pour plus de secret, le vieillard souffla la lampe, prit sa libératrice par la main, l'aida à faire 7 ou 8 pas dans un passage difficile. Au bout de quelques minutes, il lui dérangea doucement la main. Elle se vit dans la chambre que le marquis de Montauran venait de quitter et qui était celle de l'avare. « Ma chère enfant, lui dit le vieillard, vous pouvez partir. Ne regardez pas ainsi autour de vous, vous n'avez sans doute pas d'argent. Tenez, voici 10 écus. Il y en a de rognés, mais ils passeront. En sortant du jardin, vous trouverez un sentier qui conduit à la ville ou, comme on dit maintenant, au district. Mais les chouans sont à Fougères, il n'est pas présumable que vous puissiez y rentrer de sitôt. Ainsi, vous pourrez avoir besoin d'un sûr asile. Retenez bien ce que je vais vous dire et n'en profitez que dans un extrême danger. Vous verrez sur le chemin qui mène au nid aux crocs par le val de Gibary une ferme où demeure le grand sicot, dit Galop Chopin. Entrez-y en disant à sa femme « Bonjour, bécanière !» et Barbette vous cachera. Si Galop Chopin vous découvrait, ou il vous prendra pour l'esprit s'il fait nuit, ou 10 écus l'attendriront s'il fait jour. Adieu, nos comptes sont soldés. Si vous vouliez, dit-il en montrant par un geste les champs qui entouraient sa maison, tout cela serait à vous. Mademoiselle de Verneuil jeta un regard de remerciement à cet être singulier et réussit à lui arracher un soupir dont les tons furent très variés. « Vous me rendrez sans doute mes 10 écus,
Remarquez bien que je ne parle pas d'intérêt. Vous les remettrez à mon crédit chez Maître Patras, le notaire de Fougères, qui, si vous le vouliez, fera notre contrat, beau trésor. Adieu.
Adieu, dit-elle en souriant et le saluant de la main.
S'il vous faut de l'argent, lui cria-t-il, je vous en prêterai à 5, oui, à 5 seulement. Ai-je dit 5?
Elle était partie. Ça m'a l'air d'être une bonne fille. Cependant, je changerai le secret de ma cheminée. Puis il prit un pain de 12 livres, un jambon, et rentra dans sa cachette. Lorsque Mademoiselle de Verneuil marcha dans la campagne, elle crut renaître. La fraîcheur du matin ranima son visage qui, depuis quelques heures, lui semblait frappé par une atmosphère brûlante. Elle essaya de trouver le sentier indiqué par l'avare, mais depuis le coucher de la lune, l'obscurité était devenue si forte qu'elle fut forcée d'aller au hasard. Bientôt, la crainte de tomber dans les précipices la prit au cœur et lui sauva la vie, car elle s'arrêta tout à coup en pressentant que la terre lui manquerait si elle faisait un pas de plus. Un vent plus frais qui caressait ses cheveux, le murmure des eaux, l'instinct, tout servit à lui indiquer qu'elle se trouvait au bout des roches de Saint-Sulpice. Elle passa les bras autour d'un arbre et attendit l'aurore en de vives anxiétés, car elle entendait un bruit d'armes, de chevaux et de voix humaines. Elle rendit grâce à la nuit qui la préservait du danger de tomber entre les mains des chouans si, comme le lui avait dit l'avare, ils entouraient Fougères. Semblable à des feux nuitamment allumés pour un signal de liberté, quelques lueurs légèrement pourprées passèrent par-dessus les montagnes dont les bases conservèrent des teintes bleuâtres qui contrastèrent avec les nuages de rosée flottant sur les vallons. Bientôt, un disque de rubis s'éleva lentement à l'horizon. Les cieux le reconnurent, les accidents du paysage, le clocher de Saint-Léonard, les rochers, les prés ensevelis dans l'ombre reparurent insensiblement, et les arbres situés sur les cimes se dessinèrent dans ces feux naissants. Le soleil se dégagea par un gracieux élan du milieu de ces rubans de feu, d'ocre et de saphir. Sa vive lumière s'harmonia par lignes égales de colline en colline, déborda de vallon en vallon. Les ténèbres se dissipèrent, le jour accabla la nature. Une brise piquante frissonna dans l'air, les oiseaux chantèrent, la vie se réveilla partout. Mais à peine la jeune fille avait-elle eu le temps d'abaisser ses regards sur les masses de ce paysage si curieux, que par un phénomène assez fréquent dans ces fraîches contrées, des vapeurs s'étendirent en nappes, comblèrent les vallées, montèrent jusqu'aux plus hautes collines, ensevelirent ce riche bassin sous un manteau de neige. Bientôt, Mademoiselle de Verneuil crut revoir une de ces mers de glace qui meublent les Alpes. Puis cette nuageuse atmosphère roula des vagues comme l'océan, souleva des lames impénétrables qui se balancèrent avec mollesse, ondoyèrent, tourbillonnèrent violemment, contractèrent aux rayons du soleil des teintes d'un rose vif, en offrant çà et là les transparences d'un lac d'argent fluide. Tout à coup, le vent du nord souffla sur cette fantasmagorie et dissipa les brouillards qui déposèrent une rosée pleine d'oxyde sur les gazons. Mademoiselle de Verneuil put alors apercevoir une immense masse brune placée sur les rochers de Fougères. 700 à 800 chouans armés s'agitaient dans le faubourg Saint-Sulpice comme des fourmis dans une fourmilière. Les environs du château, occupés par 3 000 hommes arrivés comme par magie, furent attaqués avec fureur. cette ville endormie, malgré ses remparts verdoyants et ses vieilles tours grises, aurait succombé si Hulot n'eût pas veillé. Une batterie, cachée sur une éminence qui se trouve au fond de la cuvette que forment les remparts, répondit au premier feu des chouans en les prenant en écharpe sur le chemin du château. La mitraille nettoya la route et la balaya, puis une compagnie sortie de la porte Saint-Sulpice profita de l'étonnement des chouans, se mit en bataille sur le chemin et commença sur eux un feu meurtrier. Les chouans n'essayèrent pas de résister en voyant les remparts du château se couvrir de soldats comme si l'art du machiniste y eût appliqué des lignes bleues et le feu de la forteresse protégeait celui des mitrailleurs républicains. Cependant, d'autres chouans, maîtres de la petite vallée du Nançon, avaient gravi les galeries du rocher et parvenaient à la promenade où ils montèrent. Elle fut couverte de peaux de bique qui lui donnèrent l'apparence d'un toit de chaume bruni par le temps. Au même moment, de violentes détonations se firent entendre dans la partie de la ville qui regardait la vallée du Couesnon. Évidemment, Fougères, attaquée sur tous les points, était entièrement cernée. Le feu qui se manifesta sur le revers oriental du rocher prouvait même que les chouans incendiaient les faubourgs. Cependant, les flammèches qui s'élevaient des toits de Genêt ou de Bardeaux cessèrent bientôt et quelques colonnes de fumée noire indiquèrent que l'incendie s'éteignait. Des nuages blancs et bruns dérobèrent encore une fois cette scène à Mademoiselle de Verneuil, mais le vent dissipa bientôt ce brouillard de poudre. Déjà, le commandant républicain avait fait changer la direction de sa batterie de manière à pouvoir prendre successivement en file la vallée du Nançon, le sentier de la Reine et le rocher, quand du haut de la promenade, il vit ses premiers ordres admirablement bien exécutés. Deux pièces, placées au poste de la porte Saint-Léonard, abattirent la fourmilière de Chouans qui s'était emparée de cette position, tandis que les gardes nationaux de Fougères, accourus en hâte sur la place de l'église, achevèrent de chasser l'ennemi. Ce combat ne dura pas une demi-heure et ne coûta pas 100 hommes aux bleus. Déjà, dans toutes les directions, les chouans, battus et écrasés, se retiraient d'après les ordres réitérés du gars dont le hardi coup de main échouait, sans qu'il le sût, par la suite de l'affaire de la vivetière qui avait si secrètement ramené Hulot à Fougères. L'artillerie n'y était arrivée que pendant cette nuit, car la seule nouvelle d'un transport de munitions aurait suffi pour faire abandonner par Montauran cette entreprise qui, éventée, ne pouvait avoir qu'une mauvaise issue. En effet, Hulot désirait autant donner une leçon sévère au gars que le gars pouvait souhaiter de réussir dans sa pointe pour influer sur les déterminations du premier consul. Au premier coup de canon, le marquis comprit donc qu'il y aurait de la folie à poursuivre, par amour-propre, une surprise manquée. Aussi, pour ne pas faire tuer inutilement ses chouans, se hâta-t-il d'envoyer 7 ou 8 émissaires porter des instructions pour opérer promptement la retraite sur tous les points. Le commandant, ayant aperçu son adversaire entouré d'un nombreux conseil au milieu duquel était Madame Dugas, essaya de tirer sur eux une volée sur le rocher de Saint-Sulpice, mais la place avait été trop habilement choisie pour que le jeune chef n'y fût pas en sûreté. Hulot changea de rôle tout à coup et d'attaquer devint agresseur. Au premier mouvement qui indiquèrent les intentions du marquis, la compagnie, placée sous les murs du château, se mit en devoir de couper la retraite aux chouans en s'emparant des issues supérieures de la vallée du Nançon. Malgré sa haine, mademoiselle de Verneuil épousa la cause des hommes que commandait son amant et se tourna vivement vers l'autre issue pour voir si elle était libre, mais elle aperçut les Bleus, sans doute vainqueurs de l'autre côté de Fougères, qui revenaient de la vallée du Couesnon par le val de Gibary pour s'emparer du nid aux crocs et de la partie des rochers de Saint-Sulpice où se trouvaient les issues inférieures de la vallée du Nançon. Ainsi, les chouans, renfermés dans l'étroite prairie de cette gorge, semblaient devoir périr jusqu'au dernier, tant les prévisions du vieux commandant républicain avaient été justes et ses mesures habilement prises. Mais sur ces deux points, les canons qui avaient si bien servi Hulot furent impuissants. Il s'y établit des luttes acharnées et la ville de Fougères, une fois préservée, l'affaire prit le caractère d'un engagement auquel les chouans étaient habitués. Mademoiselle de Verneuil comprit alors la présence des masses d'hommes qu'elle avait aperçues dans la campagne, la réunion des chefs chez Dorgemont et tous les événements de cette nuit, sans savoir comment elle avait pu échapper à tant de dangers. Cette entreprise, dictée par le désespoir, l'intéressa si vivement qu'elle resta immobile à contempler les tableaux animés qui s'offrirent à ses regards. Bientôt, le combat qui avait lieu au bas des montagnes de Saint-Sulpice eut, pour elle, un intérêt de plus. En voyant les Bleus, presque maîtres des chouans, le marquis et ses amis s'élancèrent dans la vallée du Nançon afin de leur porter secours. Le pied des roches fut couvert d'une multitude de groupes furieux où se décidèrent des questions de vie et de mort sur un terrain et avec des armes plus favorables aux peaux de bique. Insensiblement, cette arène mouvante s'étendit dans l'espace. Les chouans, en s'égayant, envahir les rochers à l'aide des arbustes qui y croissent çà et là. Mademoiselle de Verneuil eut un moment d'effroi en voyant un peu tard ses ennemis remonter sur les sommets où ils défendirent avec fureur les sentiers dangereux par lesquels on y arrivait. Toutes les issues de cette montagne étant occupées par les deux parties, elle eut peur de se trouver au milieu d'eux. Elle quitta le gros arbre derrière lequel elle s'était tenue et se mit à fuir en pensant à mettre à profit les recommandations du vieil avare. Après avoir couru pendant longtemps sur le versant des montagnes de Saint-Sulpice qui regarde la grande vallée du Couesnon, elle aperçut de loin une étable et jugea qu'elle dépendait de la maison de Galope Chopine, qui devait avoir laissé sa femme toute seule pendant le combat. Encouragée par ces suppositions, mademoiselle de Verneuil espéra bien être reçue dans cette habitation et pouvoir y passer quelques heures jusqu'à ce qu'il lui fût possible de retourner sans danger à Fougères. Selon toute apparence, Hulot allait triompher. Les chouans fuyaient si rapidement qu'elle entendit des coups de feu tout autour d'elle et la peur d'être atteinte par quelques balles lui firent promptement gagner la chaumière dont la cheminée lui servait de jalon. Le sentier qu'elle avait suivi aboutissait à une espèce de hangar dont le toit, couvert en genêt, était soutenu par quatre gros arbres encore garnis de leurs écorces. Un mur en torchis formait le fond de ce hangar, sous lequel se trouvait un pressoir à cidre, une aire à battre le sarrasin et quelques instruments aratoires. Elle s'arrêta contre l'un de ses poteaux sans se décider à franchir le marais fangeux qui servait de cour à cette maison que, de loin, en véritable parisienne, elle avait prise pour une étable. Cette cabane, garantie des vents du nord par une éminence qui s'élevait au-dessus du toit et à laquelle elle s'appuyait, ne manquait pas de poésie, car des pousses d'ormes, des bruyères et les fleurs du rocher la couronnaient de leurs guirlandes. Un escalier champêtre, pratiqué entre le hangar et la maison, permettait aux habitants d'aller respirer un air pur sur le haut de cette roche. À gauche de la cabane, l'éminence s'abaissait brusquement et laissait voir une suite de champs dont le premier dépendait sans doute de cette ferme. Ces champs dessinaient de gracieux bocages séparés par des haies en terre plantées d'arbres et dont la première achevait l'enceinte de la cour. Le chemin qui conduisait à ces champs était fermé par un gros tronc d'arbre à moitié pourri, clôture bretonne dont le nom fournira plus tard une digression qui achèvera de caractériser ce pays. Entre l'escalier creusé dans les schistes et le sentier fermé par ce gros arbre, devant le marais et sous cette roche pendante, quelques pierres de granit grossièrement taillées, superposées les unes aux autres, formaient les quatre angles de cette chaumière et maintenaient le mauvais pisé, les planches et les cailloux dont étaient bâties les murailles. Une moitié du toit couverte de genêts en guise de paille et l'autre en bardeau, espèce de merrain taillé en forme d'ardoise, annonçait deux divisions, et en effet, l'une close par une méchante claie servait d'étable, et les maîtres habitaient l'autre. Quoique cette cabane dût au voisinage de la ville quelques améliorations complètement perdues à deux lieues plus loin, elle expliquait bien l'instabilité de la vie à laquelle les guerres et les usages de la féodalité avaient si fortement subordonné les mœurs du cerf qu'aujourd'hui beaucoup de paysans appellent encore en ces contrées une demeure, le château habité par leur seigneur. Enfin, en examinant ces lieux avec un étonnement assez facile à concevoir, Mademoiselle de Verneuil remarqua ça et là, dans la fange de la cour, des fragments de granit disposés de manière à tracer, vers l'habitation, un chemin qui présentait plus d'un danger, mais en entendant le bruit de la mousqueterie qui se rapprochait sensiblement, elle sauta de pierre en pierre, comme si elle traversait un ruisseau, pour demander un asile. Cette maison était fermée par une de ces portes qui se composent de deux parties séparées, dont l'inférieure est en bois plein et massif, et dont la supérieure est défendue par un volet qui sert de fenêtre. Dans plusieurs boutiques de certaines petites villes en France, on voit le type de cette porte, mais beaucoup plus ornée et armée à la partie inférieure d'une sonnette d'alarme. Celle-ci s'ouvrait au moyen d'un loquet de bois digne de l'âge d'or, et la partie supérieure ne se fermait que pendant la nuit, car le jour ne pouvait pénétrer dans la chambre que par cette ouverture. Il existait bien une grossière croisée, mais ses vitres ressemblaient à des fonds de bouteilles, et les massives branches de plomb qui les retenaient prenaient tant de place qu'elles semblaient plutôt destinées à intercepter qu'à laisser passer la lumière. Quand Mademoiselle de Verneuil fit tourner la porte sur ses gonds criards, elle sentit d'effroyables vapeurs alcalines sorties par bouffées de cette chaumière et vit que les quadrupèdes avaient ruiné à coups de pied le mur intérieur qui les séparait de la chambre. Ainsi, l'intérieur de la ferme, car c'était une ferme, n'en démentait pas l'extérieur. Mademoiselle de Verneuil se demandait s'il était possible que des êtres humains vécussent dans cette fange organisée, quand un petit gars en haillon, et qui paraissait avoir 8 ou 9 ans, lui présenta tout à coup sa figure fraîche, blanche et rose, des joues bouffies, des yeux vifs, des dents d'ivoire et une chevelure blonde qui tombait par écheveaux sur ses épaules demi-nues. Ses membres étaient vigoureux et son attitude avait cette grâce d'étonnement, cette naïveté sauvage qui agrandit les yeux des enfants. Ce petit gars était sublime de beauté. « Où est ta mère ?» dit Marie d'une voix douce et en se baissant pour lui baiser les yeux. Après avoir reçu le baiser, l'enfant glissa comme une anguille et disparut derrière un tas de fumier qui se trouvait entre le sentier et la maison sur la croupe de l'éminence. En effet, comme beaucoup de cultivateurs bretons, Galop Chopine mettait, par un système d'agriculture qui leur est particulier, ses engrais dans des lieux élevés, en sorte que quand ils s'en servent, les eaux pluviales les ont dépouillés de toute leur qualité. Maîtresse du logis, pour quelque instant, Marie en eut promptement fait l'inventaire. La chambre où elle attendait Barbette composait toute la maison. L'objet le plus apparent et le plus pompeux était une immense cheminée dont le manteau était formé par une pierre de granit bleu. L'étymologie de ce mot avait sa preuve dans un lambeau de serge verte bordé d'un ruban vert pâle découpé en rond qui pendait le long de cette tablette au milieu de laquelle s'élevait une bonne vierge en plâtre colorié. Sur le socle de la statue, Mademoiselle de Verneuil lut 2 vers d'une poésie religieuse fort répandue dans le pays. « Je suis la mère de Dieu, protectrice de ce lieu. » Derrière la Vierge, une effroyable image tachée de rouge et de bleu sous prétexte de peinture représentait Saint Labre. Un lit de serge verte, dit en tombeau, une informe couchette d'enfant, un rouet, des chaises grossières, un bahut sculpté garni de quelques ustensiles, complétaient à peu de choses près le mobilier de Galop Chopine. Devant la croisée se trouvait une longue table de châtaignier accompagnée de 2 bancs en même bois auxquels le jour des vitres donnait les sombres teintes de l'acajou vieux. Une immense pièce de cidre, sous le bondon de laquelle Mademoiselle de Verneuil remarqua une boue jaunâtre dont l'humidité décomposait le plancher, quoiqu'il fût formé de morceaux de granit assemblés par un argile roux, prouvait que le maître du logis n'avait pas volé son surnom de chouan. Mademoiselle de Verneuil leva les yeux comme pour fuir ce spectacle, et alors il lui sembla avoir vu toutes les chauves-souris de la terre, tant étaient nombreuses les toiles d'araignées qui pendaient au plancher. 2 énormes pichets, pleins de cidre, se trouvaient sur la longue table. Ces ustensiles sont des espèces de cruches en terre brune dont le modèle existe dans plusieurs pays de la France et qu'un Parisien peut se figurer en supposant aux pots dans lesquels les gourmets servent le beurre de Bretagne, un ventre plus arrondi, verni par places inégales et nuancé de taches fauves comme celles de quelques coquillages. Cette cruche est terminée par une espèce de gueule, assez semblable à la tête d'une grenouille prenant l'air hors de l'eau. L'attention de Marie avait fini par se porter sur ces 2 pichets, mais le bruit du combat, qui devint tout à coup plus distinct, la força de chercher un endroit propre à se cacher sans attendre Barbette, quand cette femme se montra tout à coup. « Bonjour, bécanière. lui dit-elle en retenant un sourire involontaire à l'aspect d'une figure qui ressemblait assez aux têtes que les architectes placent comme ornement aux clés des croisées.
« Ah, vous venez d'Orgemont !»
répondit Barbette d'un air peu empressé.
« Où allez-vous me mettre ? Car voici les chouans !»«
Là !» reprit Barbette, aussi stupéfaite de la beauté que de l'étrange accoutrement d'une créature qu'elle n'osait comprendre parmi celles de son sexe.
« Là, dans la cachette du prêtre !»
Elle la conduisit à la tête de son lit, la fit entrer dans la ruelle, mais elles furent tout interdites en croyant entendre un individu qui sauta dans le marais. Barbette eut à peine le temps de détacher un rideau du lit et d'y envelopper Marie qu'elle se trouva face à face avec un chouan fugitif.
« La vieille, où peut-on se cacher ici ? Je suis le comte de Beauvent. »
Mademoiselle de Verneuil tressaillit en reconnaissant la voix du convive dont quelques paroles restées un secret pour elle avaient causé la catastrophe de la vieutière.
« Hélas ! Vous voyez, monseigneur, il n'y a rien ici. Ce que je peux faire de mieux est de sortir. Je veillerai. » « Si les bleus viennent, j'avertirai. Si je restais et qu'ils me trouvassent avec vous, ils brûleraient ma maison. »
Et Barbette sortit, car elle n'avait pas assez d'intelligence pour concilier les intérêts de deux ennemis ayant un droit égal à la cachette en vertu du double rôle que jouait son mari.
« J'ai deux coups à tirer. » dit le comte avec désespoir. « Mais ils m'ont déjà dépassé. Bah, j'aurais bien du malheur si, en revenant par ici, il leur prenait fantaisie de regarder sous le lit. »
Il déposa légèrement son fusil auprès de la colonne où Marie se tenait debout, enveloppée dans la serge verte, et il se baissa pour s'assurer s'il pouvait passer sous le lit. Il allait infailliblement voir les pieds de la réfugiée qui, dans ce moment désespéré, saisit le fusil, sauta vivement dans la chaumière et menaça le comte. Mais il partit d'un éclat de rire en la reconnaissant, car pour se cacher, Marie avait quitté son vaste chapeau de chouan et ses cheveux s'échappaient en grosses touffes de dessous une espèce de résille en dentelle.
« Ne riez pas, comte, vous êtes mon prisonnier. Si vous faites un geste, vous saurez ce dont est capable une femme offensée. »
Au moment où le comte et Marie se regardaient avec de bien diverses émotions, des voix confuses criaient dans les rochers.
« Sauvez le gars ! Égaillez-vous ! Sauvez le gars ! Égaillez-vous !»
La voix de Barbette domina le tumulte extérieur et fut entendue dans la chaumière avec des sensations bien différentes par les deux ennemis, car elle parlait moins à son fils qu'à eux.
« Ne vois-tu pas les bleus ? »
s'écriait aigrement Barbette.
« Viens-tu ici, petit méchant gars, ou je vais à toi. Veux-tu donc attraper des coups de fusil ? Allons, sauve-toi, vitement !»
Pendant tous ces petits événements qui se passèrent rapidement, un bleu sauta dans le marais.
« Beau pied !»
lui cria mademoiselle de Verneuil. Beaupied accourut à cette voix et ajusta le comte un peu mieux que ne le faisait sa libératrice.
« Aristocrate, dit le malin soldat, ne bouge pas ou je te démolis comme la Bastille en deux temps.
« Monsieur Beaupied, reprit mademoiselle de Verneuil d'une voix caressante, vous me répondez de ce prisonnier. « Faites comme vous voudrez, mais il faudra me le rendre sain et sauf à Fougères. »«
Suffit, madame. »«
La route jusqu'à Fougères est-elle libre maintenant ?»«
Elle est sûre, à moins que les chouans ne ressuscitent. »«
Mademoiselle de Verneuil s'arma gaiement d'un léger fusil de chasse, sourit avec ironie en disant à son prisonnier « Adieu, monsieur le comte, au revoir !» et s'élança dans le sentier après avoir repris son large chapeau.
« J'apprends un peu trop tard, » dit amèrement le comte de Vauban, « qu'il ne faut jamais plaisanter avec l'honneur de celles qui n'en ont plus. » « Aristocrate !» s'écria durement Beaupied. « Si tu ne veux pas que je t'envoie dans ton ci-devant paradis, ne dis rien contre cette belle dame. »
Mademoiselle de Verneuil revint à Fougères par les sentiers qui joignent les roches de Saint-Sulpice au nid aux crocs. Quand elle atteignit cette dernière éminence et qu'elle courut à travers le chemin tortueux pratiqué sur les aspérités du granit, elle admira cette jolie petite vallée du Nançon, naguère si turbulente, alors parfaitement tranquille. Vu de là, le vallon ressemblait à une rue de verdure. Mademoiselle de Verneuil rentra par la porte Saint-Léonard, à laquelle aboutissait ce petit sentier. Les habitants, encore inquiets du combat qui, d'après les coups de fusil entendus dans le lointain, semblait devoir durer pendant la journée, y attendaient le retour de la garde nationale pour reconnaître l'étendue de leur perte. En voyant cette fille dans son bizarre costume, les cheveux en désordre, un fusil à la main, son châle et sa robe frottés contre les murs, souillés par la boue et mouillés de rosée, la curiosité des Fougerais fut d'autant plus vivement excitée que le pouvoir, la beauté, la singularité de cette Parisienne défrayaient déjà toute leur conversation. Francine, en proie à d'horribles inquiétudes, avait attendu sa maîtresse pendant toute la nuit, et quand elle la revit, elle voulut parler, mais un geste amical lui imposa le silence.
« Je ne suis pas morte, mon enfant, » dit Marie.
« Ah, je voulais des émotions en partant de Paris, j'en ai eu, » ajouta-t-elle après une pause.
Francine voulut sortir pour commander un repas en faisant observer à sa maîtresse qu'elle devait en avoir grand besoin.
« Oh !» dit Mademoiselle de Verneuil, « un bain, un bain, la toilette avant tout !»
Francine ne fut pas médiocrement surprise d'entendre sa maîtresse lui demander les modes les plus élégantes de celles qu'elle avait emballées. Après avoir déjeuné, Marie fit sa toilette avec la recherche et les soins minutieux qu'une femme met à cette œuvre capitale quand elle croit se montrer aux yeux d'une personne chère au milieu d'un bal. Francine ne s'expliquait point la gaieté moqueuse de sa maîtresse. Ce n'était pas la joie de l'amour. Une femme ne se trompe pas à cette expression. C'était une malice concentrée d'assez mauvais augure. Marie drapa elle-même les rideaux de la fenêtre par où les yeux plongeaient sur un riche panorama, puis elle apporta le canapé de la cheminée, le mit dans un jour favorable à sa figure et dit à Francine de se procurer des fleurs afin de donner à sa chambre un air de fête.